Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Ouest sauvage. Alors que le chemin de fer progresse pour relier la côte Est à la côte Ouest, une histoire d'hommes et de femmes, une histoire de colons, une histoire d'indiens, également de vengeance et peut-être aussi d'un serial killer. La série western se nomme Wild West, elle est signée de Thierry Gloris et de Jacques Lamontagne. Messieurs, bonjour.
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 Alors, le quatrième tome vient de paraître, là, il y a peu aux éditions Dupuis, mais je voudrais revenir sur le début. Comment vous en êtes arrivé à faire un western ensemble?
Thierry et moi, on avait déjà travaillé sur une autre série qui s'appelait Aspic et qui avait pris, en fait, notre collaboration avait pris fin assez rapidement après 4 tomes. On s'était dit qu'un jour, on aimerait bien retravailler ensemble. Et Thierry m'a contacté afin de me demander si ça m'intéressait qu'on parte un nouveau projet. Et il m'a posé la question, dans quel genre t'aimerais travailler? Moi, je lui avais parlé du retour de Martinguerre, une petite communauté. Et puis, 2 ou 3 semaines plus tard, Thierry est revenu avec l'idée d'un western. Donc, c'est ainsi que ça partit.
Moi, les petits détails que j'ai rajoutés, c'est qu'il m'avait dit, j'aimerais dessiner des tronches, des visages particuliers, des vraies têtes, quoi, pas juste des trucs tout simples. Il voulait vraiment, voilà, comme tu m'avais dit, je voulais un dessin un petit peu qui accroche un peu sur les visages. Et pendant cet intervalle de temps, là, pendant 2, 3 semaines, je pense même, il y a dû passer, il était une fois dans l'Ouest. Et la séquence de départ avec les comment ça s'appelle les 3 desperados là qui attendent le héros en fait à la
Jack
gare,
est
ça
là, mais
voilà, c'est cette séquence qui dure super longtemps avec des vraies tronches, enfin voilà, c'est ça qui était intéressant et c'est ça qui m'a lancé sur le western, parce que c'est vrai que quand nous on a commencé à travailler sur ce projet-là, le western en fait n'était pas revenu énormément grâce en bande dessinée. Et en fait, on est arrivé juste après. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était ça. Moi, je me rappelle très bien, Jacques m'a dit, oui, je veux dessiner des têtes. J'en ai ras-le-bol de faire des traits lisses. Je veux faire des vraies têtes. Et puis, voilà, le western s'est imposé comme ça, grâce à ce film.
C'est vrai que là, il y a des vraies têtes, hein, on va y revenir, il y a des vrais personnages. Qu'est-ce qui est attirant pour vous, tous les deux auteurs, dans le western, dans les grands espaces, dans ce chemin de fer, dans les natifs, américains qui sont là? Qu'est-ce qui attire quand on est auteur?
Non, mais ce que j'allais dire, moi, bon, c'est l'aspect découverte, c'est l'aspect nouveau territoire, c'est l'aspect, c'est l'angle du pionnier qui arrive et qui découvre ces grands espaces. Donc, moi, ça m'intéresse énormément.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a pris un axe qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que l'on prend des personnages qui ont existé et on en fait une fiction. Donc, ce n'est pas vraiment de la biographie, ce n'est pas vraiment de la fiction. On est dans un entre-deux. Et en fait, c'est comme un énorme bac à sable avec lequel on peut jouer, on peut faire des petits châteaux, on peut s'amuser comme ça. Et c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un carcan historique qui, des fois, peut brider l'imagination. Mais d'un autre côté, le Far West, le Western, c'est quand même un grand espace d'imaginaire. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vu des westerns savent très bien que ce n'est pas la réalité. Et pourtant, on se dit que ça devait être la réalité. Alors qu'en fait, non, la réalité, c'est des gens qui essayaient de survivre. Ce n'était pas des gars qui se tiraient dessus aux 4 chemins. Bien sûr, il y avait des bandits, mais c'est comme actuellement, il y a des bandits. Enfin, il y a des gens qui se tirent dessus. Mais ce n'est pas notre réalité quotidienne, même si la vie devait être extrêmement dure et ils ont défriché un continent et un pays entier. Donc, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment le côté bac à sable. Et le deuxième, comment dire, la deuxième idée que j'aime bien en tant que scénariste, c'est que c'est un espace qui est immense, donc c'est un très très grand bac à sable. Et en plus, les lois de l'homme sont très compliquées à mettre en place. C'est-à-dire que les comportements humains peuvent être extrêmes. Ce qui est intéressant pour un scénariste, comme ça, on peut vraiment avoir un aventurier dans l'Ouest. Être un aventurier actuellement en France au XXe siècle, ça va être compliqué. Dès que vous allez sortir un petit peu du chemin, vous allez avoir deux policiers qui vont arriver, qui vont vous dire, il faut pas. Vous êtes à l'école, vous faites un truc, la maîtresse qui va faire, il faut pas. L'Ouest, c'est un grand espace, il y a de la place, il y a de la liberté. Et ça, pour un scénariste, voilà, les personnages peuvent faire énormément de choses. C'est pain béni.
J'en profite parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on disait, bah, Les grands espaces américains sont très attirants parce qu'en Europe, dès qu'on soulève une pierre, il y a une légende, une histoire, une vieille pierre, un vestige, etc. Et qu'il y a beaucoup plus de liberté, en tout cas dans notre imaginaire, hein, parce que évidemment, il y a des gens qui vivent là depuis longtemps. Est-ce qu'il y a de ça dans le western? C'est qu'il y a moins le poids du passé, puisque non pas tout est neuf, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se créer.
De mon côté, en tant que scénariste, je dirais oui et non. Oui, parce que voilà, tout est neuf, c'est-à-dire qu'avec la machine à vapeur, on peut pousser, on peut pousser les espaces, on peut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a tout cet imaginaire de la traversée d'un continent entier par par le chemin de fer, donc cette aventure humaine. Donc oui, il y a ce côté-là. Mais d'un autre côté, moi, ce que j'aime bien, c'est il y avait les Amérindiens. C'est vrai qu'ils sont quand même présents, mais ils seront encore plus présents parce qu'il y a vraiment ce côté, on a arraché la terre, on a arraché des traditions à des peuples qui étaient là, donc on les appelle les natifs maintenant. Et c'est vrai que même si c'est, comment dire, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas le fond de notre série, ce n'est pas le fond de Wild West. On n'est pas avec Danse avec les loups, par exemple, le western de Kevin Costner, on n'est pas là-dedans. Mais c'est vrai que ça a quand même une place importante. On va y revenir dessus. On va y revenir. C'est le fait que voilà, l'homme blanc n'est pas forcément le gentil cow-boy. C'est pas John Wayne sur son canasson là qui part à l'horizon avec le droit, enfin, la Bible et le droit sur le cœur, quoi. On est vraiment dans autre chose.
Jacques, je vous pose aussi la question graphiquement parlant, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'Ouest, en tout cas le Western, on a des premières photos. Et on a des photos de Calamity Jane, par exemple, ou de Wild Bill Hickok, je ne l'ai pas bien prononcé. Comment est-ce que vous êtes approprié cet univers-là?
Si on parle des personnages principaux, en fait, on a fait le choix en fait de prendre certaines distances par rapport aux photographies existantes, surtout pour Calamity Jane. Il fallait que, bon, parce que le personnage a un visage, bon, enfin, un caractère plutôt ingrat, sur les photos, et on voulait que le lecteur prenne parti pris pour le personnage. Donc, c'est sûr que c'était plus facile en donnant des traits un peu plus féminins à Calamity Jane. Wild Bill Hickok aussi, j'ai pris certaines distances graphiquement par rapport aux personnages, aux photos d'archives. Et c'est un choix également parce que peut-être qu'on y viendra un peu plus tard, mais on n'est pas d'une historicité parfaite. On voulait s'approprier en partie le passé de ces personnages, mais également, bon, naviguer entre la fiction et l'histoire pour ne pas être pris dans une espèce de carcan historique. Et je crois que c'est surtout Thierry qui avait le goût de prendre certaines distances par rapport à ce côté historique précis.
Comment vous avez fait justement avec l'histoire? Parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, et de la conquête, en tout cas de l'arrivée du train, mais aussi de ces personnages-là. Hein. On l'a dit, Calamity Jane, on s'est relativement bien renseigné sur sa biographie. Comment vous avez fait? Vous avez rempli les blancs? Vous avez fait de l'hommage respectueux et irrespectueux? Comment est-ce que vous avez travaillé cette matière historique?
Tout est dans le relativement, dans ce que vous disiez. C'est-à-dire, on sait des choses relativement. C'est-à-dire que le mythe de l'Ouest a été construit par les journalistes de l'Est. Il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des journalistes de l'Est, donc qui étaient comment dire, dans des États qui étaient extrêmement civilisés, qui étaient aussi civilisés que certains pays d'Europe, qui allaient vers le, qui franchissaient un petit peu l'Ouest, mais qui n'allaient pas trop loin, hein, parce qu'il ne faut pas non plus. Voilà, ils avaient un peu peur ou c'était pas dans leur mœurs, et ils allaient recueillir des témoignages. Donc toujours, comment dire, tout ce que l'on a sur l'Ouest, c'est souvent de la seconde main, c'est-à-dire c'est du oui-dire. J'ai entendu, c'est un journaliste qui a entendu dire. Et donc, il faisait des articles. Et le but d'un journaliste, c'est vendre du papier. Donc, plus c'est spectaculaire, plus c'est intéressant. Donc oui, on a des choses, mais on n'a pas des historiens qui étaient là, qui ont fait des témoignages ou des travaux d'historiens. La plupart du temps, ce sont des journalistes. Donc, d'une façon ou d'une autre, quand on voit même actuellement, comment les journalistes peuvent traiter l'actualité, je veux dire, enfin bon, je ne vais pas faire de la pub pour certaines comment dire, chaînes de télévision, comment dire, d'infos en direct. Mais bon, on voit bien comment, plus on fait du spectaculaire, mieux c'est. Dès qu'il y a le moindre relèvement, le moindre truc, tac, on en fait toutes les 5 minutes, tac, il faut que notre attention soit prise. Les journalistes faisaient la même chose, c'est-à-dire même si c'était des quotidiens, il fallait chaque fois une histoire de plus en plus importante.
J'allais rajouter, moi, que les personnages principaux également, comme Calamity Jane, aimaient bien peut-être bonifier un peu leurs aventures, leurs histoires, afin que ça devienne plus intéressant.
Calamity Jane, c'est vraiment l'archétype de ce genre de choses. On ne savait jamais si c'était la réalité, si elle divaguait, si elle était mythomane, si elle avait trop bu, parce qu'elle aimait bien la divine bouteille. Donc, il y avait tout ça, c'est intéressant. Donc, ça fait un énorme matériel à la fois, comment dire, fantasmé et une certaine forme de réalité, parce qu'on sait où ils étaient, on sait à peu près, comment dire, à quelle époque ils sont nés, quand ils sont morts. Mais après, il y a énormément de trous. Et donc, moi, ce que je me suis amusé, c'est en fait, voilà, de boucher les trous, et puis même des fois, comment dire, de tordre un peu comment dire, les infos que l'on m'avait données. Notamment sur Calamity Jane, parce que Calamity Jane, elle en a tellement dit qu'on ne sait pas exactement qui elle est, qui était vraiment cette femme. C'est vraiment très complexe, en fait, à savoir qui était Calamity Jane. Parce que même, elle a eu une fille dont elle ne s'est pas occupée. Il y a eu des lettres à sa fille, mais est-ce que c'était vraiment elle qui les a écrites ou est-ce que c'était apocryphe? C'est très compliqué, hein. Ces personnages sont assez nébuleux, ils sont vraiment légendaires. Et dans légendaire, il y a tout. On dit, voilà, c'est une légende. Comme le mythe arthurien, hein, quelque part. Sauf que c'est plus proche de nous.
Ouais, y a quand même quelques photos et quelques supports, mais évidemment, c'est de l'histoire revisitée. Qu'est-ce qu'ils ont, ces personnalités du western d'attirant? C'est justement leur liberté, cette légende réécrite, parce qu'on parle beaucoup de Calamity Jane, mais aussi Wild Bill Hickok. Je ne vais pas y arriver, hein, comment.
Alors là, je vais faire assez court, comme ça je vais laisser un peu la parole à Jacques. Moi, ce que j'aime dans ces personnages, c'est qu'en fait, ce sont comment dire, des archétypes de l'Amérique. Et j'aime bien, à travers eux, donner une vision de l'Amérique même actuelle. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est-à-dire que Wild Bill Hickok, pour moi, c'est un républicain, comment dire, historique, traditionnel. La Bible, le Colt. Voilà, c'est relativement simple, mais ça n'en fait pas un mauvais personnage. Alors que ce n'est pas forcément mon opinion politique. Hein. Moi, je suis un Européen. Voilà, les républicains me dépassent un peu, les républicains américains. Mais bon, ça n'empêche que c'est un personnage pour moi. Voilà, c'est un républicain traditionnel, le Colt, la Bible. Et j'avance. Et j'avance et je vais chercher un destin qui est au fin fond de l'Ouest. Donc moi, ça m'intéresse parce que ce sont des personnages qui sont extrêmement loin de moi. Mais qui, pour moi, ont une saveur, un goût ou une authenticité qui me donne une idée de ce que peut être l'Amérique. Même si je ne suis pas américain et que je ne connais pas. Mais bon, c'est vrai que j'ai lu quand même des bouquins. Je suis historien. J'ai fait des études sur comment dire, des études d'histoire contemporaine des États-Unis. Donc j'ai quand même travaillé le sujet. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir, voilà, de comprendre, enfin, d'essayer de comprendre, essayer aussi de retranscrire ma vision de comment se sont construits les États-Unis. Et se sont construits avec ces espèces de figures quasiment tutélaires. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce sont des hommes du peuple. Alors, quand on réfléchit à l'histoire européenne, on aime bien la construire à travers des grands monarques. Louis XIV, Napoléon, tac-tac. Donc, c'est toujours des grands personnages. Là, c'est des petits, entre guillemets, c'est des hommes relativement petits, c'est des hommes du peuple, mais qui ont construit une légende. Et ça, c'est intéressant.
Jacques, comment est-ce qu'on dessine aujourd'hui le western dans les années de 2020? De quoi est-ce que vous vous êtes inspiré? On a tous des images du western. Comment est-ce que vous faites pour vous les approprier et parfois vous en distancier?
Ouais, à la base, moi j'avais parlé à Thierry de la fameuse série Deadwood qui a été produite par la HBO. Ça a servi comment je pourrais dire, de référence au niveau de la tonalité de notre western. Donc très violent, très poussiéreux, très sale. On est très très loin des films de John Ford. Sinon, pour le reste, ben, on s'appuie sur une tonne de volumes que je me suis procuré. Parce que c'est une période qui est très référencée au niveau des Colts, les étuis, les uniformes, etc. Et il se trouve toujours un spécialiste qui viendra nous dire qu'on a fait une erreur sur un dessin, mais on essaie de s'appuyer sur une documentation visuelle qui est solide pour pouvoir mettre en image ça. Mais sinon, bon, ben, c'est certain qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un western qu'un autre western. On a des personnages dans des grands espaces avec des armes. Et puis, si ça se trouve, nous, l'angle qu'on a pris, peut-être un angle un peu plus réaliste. J'aime pas le mot violent parce que notre western n'est pas uniquement violent parce qu'on parle également de drame humain à l'intérieur de ça. Il faut pas oublier que le western n'est qu'un prétexte à raconter l'histoire de gens, de drames.
Ouais, et en plus là, alors pour les derniers épisodes, pour les deux derniers albums, vous avez inclus un serial killer. Alors ça, c'est une figure assez moderne, on imagine, on se le disait en entretien avant de commencer, qu'évidemment, il y en avait sans doute à ces époques-là, mais on les appelait pas encore comme ça. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Introduire un petit peu de modernité ou un élément un petit peu sanglant? Qu'est-ce que vous a apporté ce serial killer?
Thierry?
Alors, ouais, je m'y colle. Disons, le western, c'est toujours pareil. On connaît tous le western, tous. On a vu des films, on a lu des BD, on a même fait un petit peu d'histoire des États-Unis. On connaît tous le western. Bon. En travaillant sur cette série, je me suis aperçu, en fait, qu'il y avait, comment dire, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle actuellement, c'est un peu à la mode, c'est une histoire de plafond de verre. Et ce plafond de verre, il est là et on peut le casser. C'est-à-dire qu'un des premiers plafonds de verre que j'ai cassé, ça a été, comment il s'appelle? Bass Reeves. Bass Reeves, c'est un cow-boy noir. C'est une figure aussi de l'Ouest, légendaire. C'est Bass Reeves, un marshal. Il a existé historiquement. Alors, à l'heure où l'on aime mettre des personnages issus des minorités un petit peu partout dans les rêves fantasy, dans tout ce que l'on veut, là, il y en a réellement. C'est aussi à ce moment-là où j'ai appris que 25% des cow-boys en moyenne étaient noirs. 25% étaient hispaniques. Ce qui fait que des cow-boys blancs, il n'y en a pas tant que ça. Donc déjà, ça casse quelque chose. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ensuite, j'ai regardé les figures de l'Ouest. Et il y en a un, c'est, je crois que c'est Jeremiah Johnson, un truc comme ça. C'est un trappeur qui part dans l'Ouest américain. Il va tuer des ours. Enfin, il a une vie, comment dire, très, très difficile. Et un de ses faits d'armes, c'est de tuer des natifs, donc tuer des Indiens, et de leur manger le foie. Voilà. Moi, je me rappelle ce personnage-là. Il existait dans un film que j'ai dû voir en western. J'étais assez assez petit. Bon, c'était pas gore, mais c'était dit. On le voyait et c'était normal. C'était l'Ouest. Bon, maintenant, vous réfléchissez avec un peu de recul. Un gars, oui, qui n'a pas de loi en fait, qui n'a pas de loi humaine ni de loi de Dieu, qui bute des gens, parce que les Indiens, c'est quand même des gens. Je le rappelle parce que c'est vrai que dans le western classique, on a tendance à l'oublier que les Indiens sont des gens, sont des humains. Bon, ils tuent des gens, normal. Ensuite, ils les éventrent et ils mangent leur foie. Ça ne vous fait pas penser à une figure que tout le monde connaît, ben, le serial killer.
On avait déjà discuté également. Je suis abonné au magazine Wild West, un magazine américain, et on relate l'histoire d'une espèce
Oui.
de type qui vivait dans sa cabane et qui avait mangé sa famille au complet. Donc, on n'a rien inventé dans les années 60 ou 70 avec les serial killers. Ça a toujours existé, sauf qu'on leur a mis un nom avec le FBI qui a donné le nom serial killer. Mais sinon, ça a toujours existé, des gens qui, intellectuellement, ça ne fonctionne pas très bien. Donc,
Alors, je ne sais pas si c'est intellectuellement, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a réussi à nous vendre ce genre de personnages comme des héros.
Ouais.
Mais en fait, ce sont des serial killers. Quand on réfléchit 5 minutes, c'est oui. C'est juste qu'à un moment donné, les Indiens n'existaient pas. C'était du gibier. Donc forcément, bah, ils tuent des Indiens, c'est pas grave. Ils leur mangent le foie, c'est pas grave. Non, ce sont des serial killers. Voilà.
Disons que c'est encore plus propice cette période du western dans des territoires où il y a un petit peu moins la présence de la loi et de l'ordre, quoi.
Voilà, c'est un immense bac à sable pour un scénariste, mais alors pour un serial killer, c'est encore plus grand. C'est une plage, une immense plage où il peut s'exprimer tant qu'il veut.
Voilà, serial killer du monde entier. Si vous nous écoutez, un petit voyage dans le temps, vous savez ce qu'il reste à faire. Comment justement on échappe au poncif des westerns, que ce soit les anciens westerns avec les Indiens méchants et les cowboys John Wayne très gentils, ou à l'inverse, des Indiens très gentils et des méchants cowboys très très méchants. Comment est-ce qu'on joue un petit peu avec toutes ces représentations?
J'ai abordé le western en fait comme presque une histoire sociale. Bien sûr, il y a de l'action automatiquement, mais il y a vraiment comment dire, une chronique sociale derrière, et une chronique sociale qui est presque plus de l'Amérique telle que je l'aperçois actuellement que de celle qui existait au temps de la ruée vers l'or. On est vraiment, et moi je suis vraiment là-dessus. Donc c'est vrai que j'aime bien jouer avec ça. Après, bien sûr, je connais tous les westerns. Enfin, j'ai vu énormément de westerns, donc je joue avec ces codes-là. Mais j'essaye de rentrer autre chose. Il y a vraiment une chronique sociale qui est derrière, une chronique humaine. Et là, bon, on va voir dans les prochains albums. Je ne vais pas non plus divulgacher. J'aime bien le mot. Je ne veux pas trop divulgacher, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté des gens qui se mariaient. Ça aussi, c'est quelque chose qui est avec l'Ouest. Et les distances sont tellement, comment dire, étirées. Et le temps c'est pas le même temps, on n'a pas le même temps. C'est-à-dire que quand on envoie un message, c'est pas un mail qui arrive immédiatement, quoi. Ça met des années. Et on pouvait avoir des gens qui étaient mariés, qui se retrouvaient chacun d'un bout à l'autre du pays, et ils ne se voyaient pas pendant 2, 3 ans. Et pourtant, ils étaient toujours mariés. Avec en plus le poids de la religion qui faisait que forcément, les femmes, bah, elles devaient rester dans la logique, sans amant. Bon, on ne parlera pas de Calamity Jane, hein, parce qu'elle, c'est quand même un peu une exception dans cette idée-là. Mais ça crée quelque chose quand même. Quand on réfléchit bien, on se dit comment des femmes. Les hommes allaient au bordel, hein. C'était plus simple, au moins la question se posait moins. Mais c'est vrai que les femmes, logiquement, avec la religion, elles ne devaient pas avoir de rapport sexuel ou même de rapport humain, alors que la distance pouvait amener ça. Et ça peut être aussi intéressant. Ce sont des petites choses qui m'intéressent. Alors, ce n'est pas le fond de notre histoire, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est vrai que c'est une petite chronique sociale. Puis le poids de la religion, ça m'intéresse. Enfin, il y a énormément de choses comme ça qui peuvent m'intéresser. C'est pour ça, je pense que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire quelque chose de différent. C'est-à-dire en s'intéressant à autre chose que ce à quoi le western traditionnel s'intéresse. C'est-à-dire l'aventure, les grands espaces et l'homme face à la nature, quoi.
Vous
Là,
êtes
j'essaye
d'accord.
d'être sur autre chose, sur des petites choses, quoi. Des choses qui sont plus humaines.
Oui, et puis ça se ressent notamment dans cette compagnie de chemin de fer qui va avancer coûte que coûte,
Oui.
malgré les hommes, malgré leur fatigue ou malgré éventuellement les morts, quoi, et les territoires indiens.
Ça, par exemple, c'est une thématique qui est. Comment dire, conventionnel dans le western, mais on n'y met pas forcément d'où ça vient. Ça vient du capitalisme qui pousse à cela. Et c'est vrai que c'est très, très, très sous-entendu dans les films. Nous, on le met un peu plus en évidence. Voilà.
Jacques, vous êtes d'accord avec tout ça?
Ah ben oui, moi je suis d'accord, c'est mon scénariste, donc je l'écoute et puis. Non, non. En
Obligé.
fait, on se plaît à dire qu'on est une espèce de vieux couple de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on a une mécanique maintenant assez bien huilée à travers nos collaborations qu'on a eues. Il n'y a pas de guerre d'ego et c'est pourquoi on a beaucoup d'écoute l'un envers l'autre. Soit Thierry, bon, parfois je peux lui apporter des suggestions. Thierry également, bon, revient sur certains trucs au niveau dessin. Mais non, je suis tout à fait d'accord donc avec ce que Thierry dit.
Oui, parce que par exemple, des fois, il y a des séquences où j'ai pas forcément le lieu, où j'ai pas forcément le comment dire, le petit côté action qui va m'amener à cette séquence-là ou à ce que je veux dire. Et Jacques, des fois, il me dit, oui, j'aimerais bien faire une séquence avec une diligence. Oh, faire une séquence avec une diligence. Bon, là, c'est la diligence, elle va se casser, elle va faire 3 tonneaux, etc. Il va s'en mordre les doigts à le dessiner, mais il a eu sa diligence. Voilà.
Tout
N'est-ce pas?
à fait.
Teasez-moi un petit peu, là, vous avez commencé à nous parler des nouvelles aventures et des prochains albums. Allez, un petit mot, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, c'est quoi le début de l'origine de l'histoire pour ce tome 5?
On ne peut pas vraiment dire, en tout cas, je crois qu'on ne peut pas trop dévoiler, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on base notre prochain récit sur un fait historique qui est vraiment arrivé. C'est, ouais, donc, mais on ne peut pas en dire plus parce que sinon.
Non, là c'est vraiment le comment ça s'appelle ouais, ce serait trop révélé de l'album. Ce que l'on peut dire, c'est que la suite de l'album va se passer dans le sud des États-Unis, donc il fera plutôt chaud. Alors que là, on était plutôt dans justement le titre, c'était la boue et le sang. Donc, il faisait froid, il faisait humide. Là, on repart sur des espaces beaucoup plus chauds. On est limite en climat semi-désertique. Et on est sur autre chose. Voilà, c'est. Mais on ne sera pas sur l'or. Parce que c'est vrai que l'or aussi, c'est quelque chose, l'avidité, l'or qui est très, très western. Et là, on a pris un autre biais. Ce ne sera pas de l'or. Voilà. On peut le dire, ouais.
Ouais, tu peux bien, oui, tu peux
Oui,
bien.
oui. Ça sera sur
Allez.
le borax. Le borax. Voilà, quand vous me disiez comment on fait pour sortir un petit peu de ce dont on a l'habitude, bon, il y a eu une ruée sur l'or, que tout le monde connaît. Et il y a eu c'est pas une ruée, mais il y a eu une exploitation du borax. Alors, le borax, il faut travailler un peu dessus. C'est dans le sud-est des États-Unis. Et en fait, c'est une substance qui permet de comment dire, de tuer les parasites. Et forcément, pour les mineurs, on s'en rend pas compte, mais les puces, c'était un fléau. Et donc, ils avaient besoin de borax pour nettoyer leurs vêtements. Et ce borax, c'est un minerai qui permet justement de tuer ces trucs-là. Et donc, on sera dans une exploitation de borax.
Oui, surtout la manière dont on récoltait le borax et qu'on le l'acheminait, c'est quand même particulier. Donc, il y aura quelques surprises autour de ça.
Voilà. Comment on
Eh
fait pour être dans un western et pas dans un western?
ben,
on sera en tout cas au rendez-vous. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à
Je vous en
vous.
prie.
Hein, il me reste à rappeler que Wild West, c'est une série en 4 tomes et donc bientôt d'autres tomes, vous l'avez compris. C'est chez Dupuis et on vous le recommande fortement. Merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite avec un nouvel épisode de Dans ma bulle. Et puis, bah, si vous voulez rester un petit peu avec nous, on a désormais plus de 350 émissions dans nos archives. Merci à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.